Il est 15h et j'ai le plaisir d'accueillir toute l'équipe pour l'émission des lecteurs sous les toits. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour, bonjour. Emeline.
Bonjour à tous. Notre émission d'aujourd'hui traitera, comme d'habitude, de romans contemporains, mais aussi de quelques ouvrages de fiction concernant la Grande Guerre, puisque tel était le thème de notre comité de lecture de mardi dernier. Alors, j'ai autour de moi Claudine, Alphonsine, Robert et Nathanaël. Et c'est Claudine qui va commencer pour introduire cette émission avec un poème de Guillaume Apollinaire.
Voilà, on a eu, aux correspondances, on a reçu un illustrateur que nous connaissons bien à Manosque, puisqu'il est déjà venu aux correspondances et de Fête du Livre, c'est Laurent Corvézier. Et Laurent a illustré un après-midi, dans une séance qui a particulièrement plu aux gens qui assistaient, il a illustré directement devant les gens une grande fresque avec de couleurs somptueuses sur des poèmes de la guerre de 14-18. Donc cet album de Rue du Monde, c'est un poème d'Apollinaire qu'il a écrit en 1916. Apollinaire a été blessé à la tête en 1916, il a été trépané et il est mort en 1918 de la grippe espagnole. Ce poème s'adresse à sa fiancée qui vient de repartir en Algérie. Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée. Il y a dans le ciel six saucisses, et la nuit venant, on dirait des asticots dont naîtraient les étoiles. Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour. Il y a mille petits sapins brisés par les éclats d'obus autour de moi. Il y a un fantassin qui passe, aveuglé par les gaz asphyxiants. Il y a que nous avons tout haché dans les boyaux de Nietzsche, de Goethe et de Cologne. Il y a que je languis après une lettre qui tarde. Il y a dans mon porte-carte plusieurs photos de mon amour. Il y a les prisonniers qui passent, la mine inquiète. Il y a une batterie dont les servants s'agitent autour des pièces. Il y a le vague-mestre qui arrive au trot par le chemin de l'arbre isolé. Il y a, dit-on, un espion qui rôde par ici, invisible comme l'horizon dont il s'est indignement revêtu et avec quoi il se confond. Il y a, dressé comme un lys, le buste de mon amour. Il y a un capitaine qui attend avec anxiété les communications de la TSF sur l'Atlantique. Il y a, à minuit, des soldats qui clouent des planches pour les cercueils. Il y a des femmes qui demandent du maïs à grands cris devant un Christ sanglant à Mexico. Il y a le Gulf Stream qui est si tiède et si bienfaisant. Il y a un cimetière plein de croix à 5 kilomètres. Il y a des croix partout, de ci, de là. Il y a des figues de barbarie sur les cactus en Algérie. Il y a les longues mains souples de mon amour. Il y a un encrier que j'avais fait dans une fusée de 15 centimètres et qu'on n'a pas laissé partir. Il y a ma selle exposée à la pluie. Il y a les fleuves qui ne remontent pas leur cours. Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur. Il y avait un prisonnier boche qui portait sa mitrailleuse sur son dos. Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre. Il y a des hindous qui regardent avec étonnement les campagnes occidentales. Ils pensent avec mélancolie à ceux dont ils se demandent s'ils les reverront. Car on a poussé très loin, durant cette guerre, l'art de l'invisibilité.
Je vais maintenant vous présenter, très brièvement, Voyage au bout de la nuit, qui est le premier roman de Céline. Alors Céline, il a fait paraître ce roman en 1932, Jusque-là, il n'était qu'un simple médecin de 38 ans qui exerçait au dispensaire de Clichy et il s'appelait Louis Destouches. Le lendemain de la mise en vente de ce livre, on ne parle que de cet auteur à scandale, antisémite notoire, au style novateur qui démolit le langage académique et qui influença fortement la littérature contemporaine. D'ailleurs, Céline manqua de très peu le Goncourt, mais il eut le Renaudot avec ce voyage au bout de la nuit. Ce livre est une œuvre majeure dans la littérature du XXe siècle, au même titre que La recherche du temps perdu de Marcel Proust. L'extrait que nous allons vous lire avec Nathanaël est représentatif de l'ouvrage qui met l'accent sur l'absurdité de ce monde où on envoie des jeunes gens à l'abattoir. Céline prône ici la lâcheté et l'hostilité à toute forme d'héroïsme par la voix de son personnage, Ferdinand Bardamu.
Quand nous avions donc traîné jusqu'au soir de chemin en colline et de luzerne en carotte, on finissait tout de même par s'arrêter pour que notre général puisse coucher quelque part.
On lui cherchait et on lui trouvait un village calme, bien à l'abri, où les troupes ne campaient pas encore. Et s'il y en avait déjà dans le village des troupes, elles décampaient en vitesse.
On les foutait à la porte, tout simplement.
À la belle étoile, même si elles avaient déjà formé les faisceaux.
Le village s'était réservé rien que pour l'état-major. Ses chevaux, ses cantines, ses valises, et aussi pour ce saligaud de commandant.
Il s'appelait Pinson, ce salaud-là, le commandant Pinson. J'espère qu'à l'heure actuelle, il est bien crevé.
Et pas d'une mort pépère.
Mais à ce moment-là, dont je parle, il était encore salement vivant, le Pinson. Il nous réunissait chaque soir, les hommes de la liaison, et puis alors il nous engueulait un bon coup pour nous remettre dans la ligne et pour essayer de réveiller nos ardeurs.
Il nous envoyait à tous les diables, nous qui avions traîné toute la journée derrière le général.
Pied à terre.
À cheval.
Repied à terre.
Comme ça, lui porter ses ordres de ci, de là.
On aurait aussi bien fait de nous noyer quand c'était fini.
C'eût été plus pratique pour tout le monde.
Allez-vous-en tous, allez rejoindre vos régiments et vivement qui gueulait.
Où qu'il est le régiment, mon commandant, qu'on demandait, nous.
Il est à Barbagny.
Où que c'est, Barbagny?
C'est par là.
Par là où il montrait. Il n'y avait rien que la nuit, comme partout d'ailleurs. Une nuit énorme qui bouffait la route à deux pas de nous et même qu'il n'en sortait du noir qu'un petit bout de route grand comme la langue.
Allez donc le chercher, son Barbagny, dans la fin d'un monde. Il aurait fallu qu'on sacrifiât pour le retrouver, son Barbagny, au moins un escadron tout entier.
Et encore, un escadron de braves. Et moi, qui n'était point brave et qui ne voyait pas du tout pourquoi je l'aurais été brave. J'avais évidemment encore moins envie que personne de retrouver son Barbagny, dont il nous parlait d'ailleurs lui-même absolument au hasard.
C'était comme si on avait essayé, en m'engueulant très fort, de me donner l'envie d'aller me suicider. Ces choses-là, on les a ou on ne les a pas. De toute cette obscurité si épaisse qu'il vous semblait qu'on ne reverrait plus son bras dès qu'on l'étendait un peu plus loin que l'épaule, je ne savais qu'une chose. Mais cela, alors tout à fait certainement, c'est qu'elle contenait des volontés homicides énormes et sans nombre.
Cette gueule d'état-major n'avait de cesse, dès le soir revenu, de nous expédier au trépas. Et ça le prenait souvent dès le coucher du soleil. On luttait un peu avec lui, à coups d'inertie. On s'obstinait à ne pas le comprendre. On s'accrochait au cantonnement, pépère, tant bien que mal. Tant qu'on pouvait, mais enfin, quand on ne voyait plus les arbres, à la fin, il fallait consentir tout de même à s'en aller mourir un peu.
Le dîner du général était prêt. Donc voilà, ça vous donne un peu le ton de ce roman qu'on vous invite à lire ou à relire. Voyage au bout de la nuit de Céline.
Nous allons vous présenter, et après vous lire des extraits avec Sylvie, d'un auteur complètement oublié aujourd'hui qui s'appelle Léon Vers ou Werth, son nom s'écrit W-E-R-T-H. Cet auteur aujourd'hui est connu surtout et presque uniquement parce que Saint-Exupéry lui a dédicacé Le Petit Prince. Pourtant, cet homme a marqué son époque. Il a marqué tout d'abord lorsqu'il a fait la guerre de 14-18. Cela a été un des premiers à sortir un livre, en fait, de témoignages, puisqu'il est sorti dès 1919. Lui-même s'était engagé comme simple soldat. En fait, il avait cru être un soldat de l'an 2 et il avait accepté le vieil héroïsme d'aller se faire tuer pour la patrie. Pourtant, juste avant la guerre, il était antimilitariste. Et cette guerre, donc, il va la décrire au plus près. Nous allons donc vous lire trois extraits de son livre « Clavel soldat » qui est vraiment ce qu'il a vécu pendant qu'il était au front. Et quelles que soient les causes de cette guerre, elle est maintenant semblable à toutes les guerres.
Elle persiste par l'obéissance des soldats qui vont à l'attaque comme à la manœuvre, par les passions vagues, par les haines collectives dont les journaux varient à volonté l'objet.
Selon la tradition, chaque gouvernement a déclaré qu'il avait les mains nettes, qu'il n'était pas responsable, et les peuples n'en demandent guère plus.
Où ils disent « Les autres ont été trompés par leur gouvernement ».
Et le gouvernement a ajouté une arme à leur arsenal de persuasion. Comme les peuples modernes n'aiment pas la guerre, les gouvernements ont répondu par leur agence, ils ont répondu par leurs socialistes et leurs anarchistes, complices du jeu, l'idée que cette guerre était la dernière des guerres.
La guerre tueuse de guerre, comme un enfant qui réclame un dernier gâteau. Encore un, plus qu'un, je n'en demanderai plus. Les gouvernements ont demandé au peuple le dernier sacrifice.
Faites la guerre pour que vos fils n'aient plus à la faire.
Mensonge imbécile. Cette guerre est la guerre. Rien ne prépare la persistance de la paix, sinon l'habitude de ne pas consentir à la guerre.
Chaque jour de guerre auquel les peuples consentent les accoutume à la guerre et prépare une guerre nouvelle dans l'avenir.
C'est la tranchée de départ, sous le chassé-croisé des obus qui tombent plus loin. On a le parapet devant le nez et on ne voit rien, en levant la tête, qu'un grand espace d'horizon bleuâtre, comme la scène vide d'un théâtre, air se baisser quand on change le décor.
À l'heure fixée par la brigade et la division, les chefs de section donneront le départ, comme les chefs de gare lancent les trains selon l'horaire. Un lieutenant de la 17 regarde sa montre, il se retourne vers ses hommes.
« Vous ne me laisserez pas crever seul, » dit-il doucement. Il monte par un éboulis du parapet. Les hommes le suivent.
Une autre section vient à la même place. Le lieutenant donne l'ordre et ne bouge pas. Alors les hommes murmurent.
« Les officiers devant !» Le lieutenant se hisse et se tournant vers les hommes crie. « Vous me paierez ça !»
On le voit tomber. Six hommes l'ont suivi. Les autres attendent. Le commandant Le Gall arrive par un boyau.
Il va vers l'éboulis. Sans une hésitation.
C'est dans le règlement.
Il est capable de mourir comme de vivre pour le règlement.
Il se hisse, il est debout.
Les hommes de la section l'ont suivi. Sauf un, qui est juste derrière lui dans la tranchée.
C'est un coiffeur qui porte une belle barbe carrée, un des meilleurs chanteurs du cantonnement.
Le commandant Le Gall dirige son revolver vers lui.
Monte, ou je te brûle la gueule.
Le coiffeur fait l'effort pour se hisser. Mais il prend un peu à droite de l'éboulis, là où le parapet redevient perpendiculaire. Il tire sur ses bras et des pieds grattent la paroi.
Une balle frappe le commandant à la mâchoire.
Le coiffeur est toujours cramponné à terre.
Une autre balle et le commandant tombe.
Le coiffeur lâche les mains et fait clapoter la boue de la tranchée. Le lendemain, il raconta qu'il avait attendu la seconde balle. Je me disais, il sera toujours temps de grimper si elle ne vient pas.
Ces secondes où un homme attendait la mort d'un autre pour ne pas mourir. Troisième extrait, où Clavel et un collègue vont se réfugier.
Le sergent brancardier les a invités, en cas de bombardement, à le rejoindre au poste de secours, qui est un cellier voûté dont le mur est protégé par de gros madriers. Un officier d'artillerie a déclaré que les blessés n'y couraient aucun risque.
Et pourtant, le poste de secours est un lieu miraculeux et qui déjà semble hors de la guerre. Ceux qui règnent là possèdent le pouvoir qui semble surhumain de faire passer un soldat par la seule vertu d'une signature, du lieu où l'on meurt au lieu où l'on vit.
Les majors possèdent une baguette magique. Ils peuvent aussi distribuer de la sécurité relative et provisoire, dispenser de tranchées pour une relève. Ils peuvent, plus que le colonel, plus que les généralissimes, ce sont les sorciers du régiment.
Le bombardement dura toute la journée. Ils ne bougèrent pas. Le soir, ils apprirent qu'un obus était tombé sur le poste de secours. Ils n'eurent pas d'autres détails avant le lendemain.
L'obus était entré par le toit. Sur 12 blessés, il en tua 11. Le sergent brancardier ne fut pas touché. Le major Givet fut blessé à la jambe. Le sergent brancardier n'a rien entendu. Il a vu une flamme qui éclairait les pierres du mur. Puis, rien. En allumant une bougie, il pensait
« Sont-ils tous morts? Et moi seul vivant au milieu d'eux? Ou sont-ils tous comme moi, sans parler ?»
Il avance sa bougie à bout de bras. Il voit un corps sans tête. Plus loin, une bouillie d'os et de cervelle. C'est la tête. Mais elle est près des pieds d'un autre cadavre. Des lambeaux sanglants sont collés au mur.
Et dans ce carnage, au milieu des morts tronqués et des blessés agonisants déchirés par l'obus, le major Givet, égratigné au mollet par un éclat, crie
« Ma jambe, ma jambe !»
Donc voilà ces extraits que nous avons donnés. Donc c'est un livre fortement autobiographique de Léon Vers. Clavel, en fait, c'est lui. Il va écrire un autre livre sur la Grande Guerre, ça s'appelle « Clavel chez les majors ». C'est son récit de quand il a été réformé parce qu'il a été grièvement blessé. Et puis, il va en écrire un troisième sur la fin de la guerre, sur comment ces hommes essayent de se réadapter une fois que la guerre est finie, qu'ils ont survécu, et toute l'incompréhension qu'il y a entre l'arrière, qu'ils, eux, n'ont pas vécu toutes ces horreurs qu'il vient de nous décrire, et les soldats qui arrivent. Donc, c'est un personnage qui a marqué tout le XXe siècle, il a toujours été du bon côté. Il s'était dans l'entre-deux-guerres, après il va continuer à écrire autant des articles sur l'art, des articles aussi contre le colonialisme. Il va aller au Vietnam, donc plutôt dans l'ancienne Indochine, et il va être du coup un anticolonialiste. Puis, pendant la guerre, en fait, il est d'origine juive, donc il va être obligé de se cacher. Il va miraculeusement passer entre les mailles du filet de la Gestapo et même des milices françaises. Et il va décrire jour par jour ce que c'était la vie pendant 39-45, la vie d'un petit village où en fait les villageois ne l'ont pas dénoncé, ce qui a pu lui permettre de survivre. Et à la fin de la guerre, c'est lui qui va couvrir le procès Pétain. Donc Léon Vert est vraiment l'homme d'un siècle. Et Viviane Amy, très récemment, a fait redécouvrir ses livres qui n'étaient plus édités depuis les premières éditions, c'est-à-dire 1919-1920. Donc voilà, ça nous a permis de redécouvrir cet auteur et à la bibliothèque, nous avons les premières éditions. Nous avons les premières éditions donc de Léon Vers, de Clavel soldat en 1919, ce qui est un peu extraordinaire parce qu'on est à Manosque et ça faisait partie des livres qui, sans être censurés, ne plaisaient pas à tout le monde. Donc il fallait avoir un certain degré un peu de libre pensée pour acheter quand même du Léon Vers. Voilà.
Le livre dont je vais vous parler ça s'appelle « Voyageur malgré lui » de Min Tran Hui, Min M-I-N-H, Tran T-R-A-N, Hui H-U-Y, aux éditions Flammarion. Min Tran Hui est née en 1979. Elle a déjà écrit deux romans, « La princesse et le pêcheur » et « La double vie d'Anna Song ». Donc « Le voyageur malgré lui » est son troisième roman. Dans ce livre, Min Tran Hui navigue entre la mémoire familiale et la mémoire collective. Ainsi, elle évoque la mémoire de ses parents, son père, sa mère, ses grands-parents, ses cousins, qui ont subi la guerre au Vietnam contre les Français dans les années 50-60. Et même, certains de ses parents en sont morts. Elle évoque aussi l'histoire de Déraciné, de notre siècle et en particulier celle d'Albert Dada, qu'elle qualifie de touriste pathologique, car il partait sans cesse à pied sur les routes du monde entier, guidé par une impérieuse soif d'ailleurs. Mais, surtout dans ce roman, elle évoque la vie de son père, homme bousculé par l'histoire, immigré aux vies multiples qui a longtemps gardé le silence. Mais grâce à Lynn, sa fille, le personnage principal de ce roman, il va enfin partager les secrets de son enfance. Mais ça ne fut pas facile, comme le montrent les deux extraits que je vais maintenant vous lire. Dans le premier extrait, Lynn avait 16 ans. Quand le mot de guerre lui est venu aux lèvres, mon père s'est troublé. Il s'est interrompu et a tenté de détourner la conversation en faisant mine de découvrir dans un coin du magasin les tortues que je convoitais. Refusant de mordre à la meçon, j'ai commencé à le bombarder de questions. Comment mon père et ma grand-mère en étaient-ils venus à quitter le village? Et de quelle guerre s'agissait-il d'ailleurs? Après quelques secondes de silence, mon père a souri, puis a répondu sur un ton d'excuse qu'il n'aurait pas dû se lancer dans ce récit, que j'étais encore trop jeune et que nous reprendrions cette conversation une autre fois. Un argument qu'il réemploierait souvent, cette esquive n'étant que la première d'une longue série. Ainsi, chaque fois qu'il la choperait sur une circonstance tragique, un événement pénible ou violent qui avait frappé la famille et qu'il préférait me dissimuler, il se fermerait aussitôt. À ses yeux, ce n'était que de vieilles histoires sur lesquelles il était inutile de revenir. J'étais né en France et n'avais jamais connu le manque d'argent ni de nourriture, le deuil, les conflits meurtriers qui avaient poussé mes parents à s'exiler. Pourquoi ne pas me laisser dans une ignorance qui était aussi une grâce ? Mon père voulait garder ses douleurs, secrètes. Il y voyait un poids dont il n'était nul besoin de charger les épaules de ses enfants, ses filles aux cheveux lisses et aux yeux rieurs. Aussi pilait-il net, à la manière d'un cheval qui refuse de franchir un obstacle, dès qu'on menaçait d'aborder de trop près son existence antérieure. À quoi bon ? Cela faisait plus de 15 ans qu'il habitait la région parisienne, 10 qu'il avait obtenu la nationalité française, il avait une famille, un métier qui lui plaisait, une grande maison avec jardin, il pouvait partir où il voulait en vacances et offrir à ses enfants tout ce qui lui avait manqué. Devenu directeur technique d'une importante société d'informatique, il était l'image même de l'intégration, une publicité vivante pour la méritocratie républicaine. Dans le deuxième passage, Lynn est plus âgée. Et son père va enfin lui parler de sa vie passée, mais à sa façon. Je croyais qu'évoquer Tin, Wai, Lynn, le juge et son frère étaient la première étape d'un processus plus vaste. Que mon père se libérait aussi de ses souvenirs et de la douleur dont ils étaient empreints. Je croyais que les non-dits cumulés, exerçant une pression devenue insupportable, avaient enfin fendillé le masque de distraction et d'oubli qu'il portait comme une seconde peau, laissant éclater les réminiscences dont il déroulait le fil avec fluidité, d'autant plus troublante qu'il gardait un accent prononcé, imprégnant les noms, lieux, dates qu'il égrenait comme s'il ne pouvait plus s'arrêter, avide de ramener au jour toutes ses existences noyées dans le temps alors qu'il les avait côtoyées de si près, alors que leur destin aurait pu être le sien. Une vérité qu'il tâchait d'étouffer en étoffant ses récits, ajoutant toujours plus de détails à ses descriptions, plus de relief à ses décors, plus d'épaisseur à ceux qui les peuplaient, comme s'il pouvait s'effacer derrière eux, derrière ces absents qu'il s'efforçait de rappeler auprès de lui pour affirmer une fois pour toutes qu'ils avaient existé tels qu'ils avaient compté et qu'ils n'étaient pas tout à fait morts puisqu'il subsistait dans ses paroles, semé sur la route, menant de la maison où j'avais grandi à l'appartement où je vivais à présent. Je n'avais pas soupçonné que sa soudaine propension à se confier pouvait être le signe d'autre chose. C'était le signe de quelle autre chose ? Mais vous le saurez en lisant ce très beau livre, dont je vous rappelle le titre « Voyageur malgré lui », de l'auteur Min Tran Hui aux éditions Flammarion.
nous allons continuer de parler de la Grande Guerre avec des romans policiers de Thierry Bourcy et Célestin Louise. Flics et soldats dans la guerre de 14-18, folio policier. Alors, le livre que nous avons à la bibliothèque est une compilation de 5 romans. La Côte 512, l'arme secrète de Louis Renault, le château d'Amberville, les traîtres et le gendarme scalpé. Alors, je vais vous présenter l'auteur. Alors, l'auteur, rien ne lui permettait, enfin, ne permettait de penser qu'il allait finir déjà écrivain. Tout d'abord, il avait fait un DESS de psychopathologie et il travaillait dans un hôpital psychiatrique. Et par hasard, il va avoir un ami scénariste qui va le rencontrer. Ils vont lier amitié et il va lui proposer d'écrire pour lui aussi des scénarios. Et il va en écrire un, ce qui s'appelle La tranchée des espoirs, qui va connaître un certain succès et pour lequel, comme son nom l'indique, La tranchée des espoirs, c'était ce qui s'est passé un petit peu au début de la guerre. Je crains de vous dire la date, je crois que c'était en 1916, où les hommes allemands, enfin les soldats allemands et les Français vont en fait fraterniser. Et pour écrire ce scénario, donc, il s'est énormément documenté sur la guerre. Et du coup, on lui a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas un roman ? Et de là est né son héros, Célestin Louise, flic et soldat. Donc, notre héros est un jeune flic, mais d'origine extrêmement modeste. Et comme Léon Vert, dont je viens de vous parler tout à l'heure, et bien il va s'engager. Il aurait pu rester derrière, hein, parce qu'il était flic, et les flics, on en avait encore besoin. Donc, on n'était pas obligé d'aller dans les tranchées. Mais lui, il va décider d'accomplir son devoir. Et il va aller à la guerre. Seulement, même dans les tranchées, il se passe des choses bizarres. Nous allons vous lire un extrait.
Une sœur à la cornette approximative, au visage tendu de fatigue, au regard plein de compassion, s'approcha de Célestin.
Alors, vous voilà réveillée ?
Je suis là depuis combien de temps ?
2 jours.
Qu'est-ce qui m'est arrivé ?
On vous a retrouvé inconscient au fond d'un trou d'obus. Comme vous n'aviez pas de blessure apparente, les infirmiers vous ont ramassé, mais ils pensaient que vous étiez mort.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? La religieuse sourit, posa la main sur le front de Célestin, puis lui tendit un verre d'eau sucrée. Il le prit avec difficulté et le but à petite gorgée. Chaque geste, chaque déplacement, le plus petit mouvement lui faisait mal. Il avait l'impression d'avoir été roué de coups, piétiné, brisé. Je n'ai rien de cassé.
On dirait que non. D'après ce qu'on nous a dit, vous auriez été projeté en l'air par le souffle d'une explosion avant de rouler au fond de votre trou. Personne ne comprend comment vous n'avez pas été touché par un éclat d'obus. Il y en avait tout autour de vous.
Vous pensez que c'est un miracle alors ?
Je pense que vous avez eu de la chance.
D'un coup, Célestin se rappela l'attaque. La folie de mort qui s'était emparée du monde, les hommes qui tombaient autour de lui, les mitrailleuses qui crépitaient, les hurlements, l'angoisse. Et le jeune lieutenant, avec cette grande tache de sang au dos de sa veste. Le lieutenant de Mérange qui était avec moi, vous savez ce qu'il est devenu ? On l'a retrouvé ?
Ça, je n'en sais rien. Ici, on reçoit des blessés de 10 km à la ronde. On vous répartit au petit bonheur, on opère en urgence, on évacue comme on peut vers l'arrière ceux qui sont transportables. Autour de vous, il y a des hommes de 5 ou 6 régiments différents.
Encore assommé et déjà à moitié retombé dans la conscience, Célestin s'étonna pourtant de sa hâte, de son impatience de s'en aller. L'image du lieutenant mort lui revint alors encore une fois. Le lieutenant assassiné. « Il n'a pas été tué par les Boches, » murmura Célestin. « On lui a tiré dans le dos. » Et puis, il sombra de nouveau dans un profond sommeil que son corps épuisé réclamait.
Voilà, donc en fait, ils sont partis à l'attaque et tout d'un coup, son lieutenant tombe à côté de lui. Oui, mais il tombe et il s'aperçoit tout de suite, juste avant que l'obus le propulse en l'air, qu'on lui a tiré dans le dos. Donc lui, il a regardé vers les tranchées. Ça ne peut être que du côté des tranchées françaises que le tir venait. Et donc, il va mener une enquête pour savoir ce qui est arrivé à ce lieutenant, même si tout le monde lui dit « mais tout le monde meurt, pourquoi tu vas t'occuper de cet homme qui a été tué au milieu de tant d'autres ?» Mais il reste flic. Et au cours de ces enquêtes, on va voir ce que c'était la réalité de la guerre. de tout ce qui pouvait se passer à un moment dans l'affaire L'arme secrète de Louis Renault. Eh bien, comme il a débrouillé cette première affaire, on va le réclamer pour qu'il puisse retrouver qui a volé les plans de Louis Renault. Louis Renault qui a inventé un char, et ce char peut sauver des vies, donc il faut absolument retrouver avant que les plans passent à l'ennemi. Et comme ça, dans tous ces romans, on va avoir plusieurs visions. Dans le château d'Amberville, c'est dans un hôpital, donc un hôpital où on rapatrie vraiment ceux qui sont grièvement blessés, où les majors, comme nous l'a dit Léon Vers, ont le droit de vie et de mort. Donc c'est les majors médecins qui vont regarder si oui ou non ils renvoient les hommes. Mais peu à peu, il n'y aura plus question de les renvoyer parce que quelqu'un va les assassiner dans leur lit. Et donc, Célestin, là aussi, qui lui a été renvoyé, a été grièvement blessé, donc est dans cet hôpital, va démêler cette affaire. Dans Les Traîtres, eh bien, c'est une histoire où finalement, va être confronté à des espions, à des armes. Où sont-elles passées ? On retrouve des armes françaises de l'autre côté. Lorsqu'on prend un bastion allemand, il y a des armes françaises. Comment se fait-il ? Comment sont-elles arrivées chez les Allemands ? Et enfin, le dernier roman, c'est Le gendarme scalpé. Eh bien, on est en juillet 1918. Les troupes américaines viennent prêter main forte aux Français. Oui, mais un gendarme dans une église a été découvert, tué et scalpé. Et dans ces bataillons américains, eh bien, il y a des Indiens. Il y a des Indiens d'Amérique qui sont d'ailleurs réputés pour faire des missions très spéciales. Et donc, évidemment, tous les soupçons vont se tourner vers un Indien d'un bataillon américain. Et là, pareil, Célestin Louise va essayer de trouver la réalité, qui a pu faire ce meurtre. Donc, c'est un petit pas de côté par rapport à des... le suspense d'un roman policier nous permet finalement en même temps d'apprendre beaucoup de choses sur la Grande Guerre et en même temps d'être toujours un petit peu suspendu à l'action et de suivre notre héros au milieu de toute cette tuerie, cette boucherie. Donc ce sont des romans vraiment prenants et qu'on lit avec plaisir.
Donc, je vais vous présenter Clostria par Régis Geoffrey, qui est paru au Seuil en 2012. L'auteur est né à Marseille en 1955 d'une famille bourgeoise. Il commence à écrire très jeune, il a 16 ans. Il s'intéresse à la psyché humaine et à ses zones d'ombre. Il est auteur de nombreux romans, par exemple Univers ou Asile de fous. En 2012, lors de sa parution, le roman est très mal perçu en Autriche, parce que les faits se déroulent là-bas. La construction du livre ne suit pas un ordre chronologique et l'auteur fait des allers-retours dans le temps. C'est parfois difficile à suivre les faits. Donc Régis Geoffrey s'inspire de faits réels qui se sont déroulés en Basse-Autriche. Il s'agit d'une œuvre de fiction et cela est bien précisé de la page de garde. Ce fait divers, monstrueux, odieux, phénoménal, a défrayé la chronique du monde entier. L'histoire se déroule donc à Amstetten, au sein d'une famille en apparence normale. Joseph, Fritz, marié, père de famille, ingénieur en béton, va séquestrer sa fille Angelica, à l'âge de 18 ans, dans la cave, au-dessous de la maison familiale. Il avait construit un abri atomique construit au moment de la guerre froide. La séquestration de sa fille va durer 24 ans. Cet homme donc régnera en despote fou, imposant le silence à sa mère, puisqu'il l'a enfermée dans le grenier jusqu'à sa mort, à sa femme et à ses enfants, qui subissent, eux, des sévices corporels. Angelica, elle, subira des viols répétés et accouchera seule de 7 bébés, dont 6 vivants. Il dépeint et analyse les sentiments et les sensations d'Angelica et du bourreau, donc son père, avec maestria. Il décortique les monstruosités de son âme, ses perversions et sa capacité de manipulation. Angelica, elle, a des pensées des fois rationnelles et d'autres fois très confuses, générées par la peur, la faim, l'obscurité, la dépendance, les viols et les accouchements solitaires. Son père, des fois, la laisse pendant plusieurs jours sans eau, sans lumière. Donc, c'est une réflexion très recherchée sur la perversion donc, du bourreau et sa capacité de manipulation et surtout la détresse des victimes. Donc, je vais vous lire quelques passages très révélateurs. Après leur sortie, donc, les premiers temps, les enfants ne supportaient pas l'espace. Ils avaient peur des sonneries, des escaliers et surtout des fenêtres qui donnaient sur la campagne. Angelica, elle, aurait aimé conserver la cave d'Amenstatten et pouvoir s'y réfugier quand les tracas de la liberté lui pèseraient, une sorte de résidence secondaire, un espace privé où elle pourrait retrouver ses 24 années, où du fond de l'horreur, elle avait si souvent connu la joie. Les premiers pas tardifs de Petra, donc sa fille, le premier sourire de Martin, et cet instant magique où Roman, le dernier-né, avait tant fait rire le peuple de la cave, réuni autour d'un repas de Pâques, en gobant un spaghetti à la manière de la valeur de sabre qu'il avait vu la veille à la télévision. Dès le lendemain de la libération de la cave, la police avait organisé des réunions quotidiennes à l'hôpital. La grand-mère, Agnès, Angelica et les enfants de la cave, et les trois enfants du haut, que Fritz avait arrachés à leur mère pour les élever à l'air libre, tentaient de renouer des liens tandis que Petra luttait contre la mort dans l'unité de soins intensifs. Au bout de quelques jours, Angelica a trouvé sa mère encombrante. Roman et Martin commençaient à lui manifester une certaine tendresse. Et elle allait chaque jour visiter Petra en parlant d'elle avec une façon de se l'approprier qu'elle jugeait suspecte. Les médias avaient émis des doutes sur son innocence. Si la police n'avait relevé aucune trace d'ADN de son passage dans la cave, personne n'imaginait qu'elle n'avait pas remarqué le manège de son mari, charriant les victuailles et remontant les poubelles. Reprenant à son compte ses soupçons légitimes, l'index pointé vers elle, Angelica l'a accusée en silence un matin de mai. La vieille a plaidé maladroitement devant sa fille muette. « Ton père m'a toujours terrorisée. Il m'aurait frappée si je lui avais posé la moindre question. Je ne l'ai jamais vu traverser le jardin avec des courses. Et même si je l'avais vu, les yeux peuvent se tromper comme les gens. » Et là, donc, on se retrouve avec l'avocat de Joseph dans sa cellule. Et c'est l'avocat qui parle. « Si j'osais, je demanderais l'envoi d'Angelica devant une cour d'assises. En définitive, elle est aussi coupable que vous. Si les premiers temps vous étiez le seul maître à bord, et Ève, l'esclave enchaînée au fond de la soute, dès qu'elle a été libre de ses mouvements, elle est devenue de fait votre concubine et vous formiez avec elle un couple à part entière. Vous m'objecterez sans doute qu'elle n'avait pas le choix du lieu de résidence du ménage. Mais quelle personne appartenant au sexe faible jouit de ce droit dans notre pays, qui comporte tant de femelles et si peu de femmes ? Alors, n'oubliez pas non plus qu'elle s'est montrée parjure. Dès qu'elle s'est trouvée dans les bras des flics, elle a rompu le serment solennel qu'elle vous avait fait de retourner dans la cave sans moucharder. Cette Judas vous a trahi en échange d'une promesse d'impunité. Aujourd'hui, notre pays est lié par la légèreté des policiers qui l'ont absoute sans même vous confronter à elle ou la faire examiner par l'un de ces psychiatres retors qui vous explorent sans pudeur depuis votre arrestation. Ils auraient su lui faire cracher ses mensonges, son incurie, peut-être même ses ignominies qui l'enverraient en prison à votre place. Drapée dans sa peau de mère, l'Autriche l'admire et la couvre d'or. Donc voilà l'histoire de Claustria. Mais le véritable Joseph Fritz est condamné en mars 2009 à la prison à vie et l'internement psychiatrique pour séquestration, viol et meurtre. Donc, je vous invite à lire ce roman, très bien écrit. Et moi, il m'a passionnée.
C'est extrêmement prenant ce que tu nous racontes, mais c'est terrible. Est-ce que tu es arrivée à le lire sans reposer le livre ? Parce que c'est quand même... Bon, même si elle a connu des moments de bonheur, c'est quand même assez horrible, cette claustration avec ce père incestueux.
Bah écoute, il est tellement bien écrit. Et la manière dont il est... Il a agencé, si tu veux, il y a à la fois l'avocat, à la fois l'auteur qui fait des recherches, et on est entraîné dans un rythme assez soutenu. C'est vrai que c'est pas gai, c'est même horrible, mais on a envie de connaître. Et puis de savoir pourquoi, pendant tout ce temps-là, il n'y a pas eu des voisins, des amis, la police qui a pu soupçonner quelque chose, quoi. C'est quand même incroyable. Voilà.
Et le personnage là qui tu fais parler à la fin, c'est l'avocat du père, c'est ça? Et c'est voilà. Lui qui essaye de salir la jeune femme qui a été enfermée?
Oui, parce que cet avocat-là, il pense avoir l'affaire du siècle. Et donc d'être mis en avant de la scène et d'avoir son heure de gloire. Et donc il veut à tout prix être magnanime vis-à-vis de Joseph pour pas qu'il soit condamné, quoi.
Donc c'était, rappelle-nous le titre.
Alors, Claustria, Régis Geoffrey, paru au Seuil en 2012.
De manière très rapide, le dernier roman sur la Grande Guerre, enfin, le début se passe pendant la guerre, mais après, il va parcourir tout le XXe siècle. C'est L'enfant de l'étranger de Alan Hollinghurst. Alors, cet auteur n'est pas extrêmement connu en France, mais il est en Angleterre vécu comme un des meilleurs romanciers anglais contemporains. Il a eu plusieurs grands prix, dont le Booker Prize pour un de ses précédents romans pour La ligne de beauté. Alors, il est un peu qualifié d'écrivain gay, surtout par rapport à ses deux premiers romans, qui sont La piscine, Bibliothèque et La ligne de beauté. Mais avec ce roman de L'enfant de l'étranger, il va enfin se débarrasser de cette étiquette et cela va beaucoup plus loin. Donc, Sylvie va nous lire le premier paragraphe qui nous plante le décor.
Allongé dans le hamac, Daphné lisait de la poésie depuis plus d'une heure. Ce n'était pas facile. Elle ne cessait de penser à l'arrivée prochaine de Georges, qui était allé chercher Cécile, et elle glissait constamment par petits abandons à demi consentis, au point de finir tassée sur elle-même, le recueil au-dessus de la tête, au bout de son bras ankylosé. Comme la lumière faiblissait, les mots s'étaient mis à se fondre les uns dans les autres. Elle espérait avoir l'occasion d'observer Cécile de loin, d'absorber sa présence pendant un instant au moins avant qu'il ne l'aperçoive, qu'il ne lui soit présenté, qu'il ne la questionne sur sa lecture.
Voilà, le décor est planté. Voici les trois protagonistes que l'on va suivre pendant à peu près presque un siècle, parce que ça va aller même au-delà de leur vie. C'est un roman qui dure sur 95 ans, qui va commencer en 1913 et qui va finir en 2008. Et là, George Saul donc invite ce Cécile Valence, un jeune homme aristocratique, très futur poète, qui va en plus d'être l'amant donc de Georges, ce Cécile Valence va aussi séduire sa sœur, va lui dédier un poème de Zarpan, qui est le nom de la propriété, et Churchill, entre autres, va le citer comme un exemple de poète pour toutes ses poésies sur la guerre, ce qui est un genre à part en Angleterre, qui est un genre propre en Angleterre, la poésie sur la guerre de 14-18. Et donc, nous allons suivre toutes les pérégrinations de ces personnages. C'est un roman avec un très très beau style. Il traduit du Racine et du Proust. Je vous conseille donc sa lecture.
Je vais maintenant vous parler d'un livre dessiné. On pourrait même dire, un livre dessiné, pas seul. Voilà, roman graphique, exactement. Merci. Tant le texte est important dans ce roman. Donc, il s'appelle Gemma Bovary de Posy Simmonds chez De Noël. Posy Simmonds est dessinatrice vedette au journal The Guardian, où Gemma Bovary est parue en feuilleton. Elle est aussi l'auteur de livres pour enfants, dont Mathilda, Lulu et les bébés volants. Elle est aussi l'auteur de Fred, qui a été adapté au cinéma, comme vient de l'être Gemma Bovary. Donc, pour ceux qui ont vu le film, la lecture de ce livre sera un prolongement agréable. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça ne sera que du plaisir. En deux mots, pour vous introduire l'histoire, après une liaison amoureuse qui finit mal, Gemma épouse Charlie et pour s'éloigner des beaux-parents et de l'ex-mari de son mari, il s'installe dans une fermette du bocage normand. Là, Gemma découvre les charmes de la campagne française, mais le French way of life, excusez l'accent, a ses limites. L'ennui guette. Gemma prend un amant sous l'œil jaloux de Joubert, le boulanger, joué dans le film par Fabrice Luchini, qui n'en fait pas trop. Le nom de l'héroïne, bien évidemment, nous rappelle quelqu'un. Posy Simmonds donne à l'Emma Bovary de Flaubert une arrière-petite fille en jean, basket et lingerie fine. Personne ne sort indemne de cette satire, ni ces Anglais middle class assoiffés de grands crus et d'exotisme continental qui ont des résidences secondaires dans la région, ni cette petite bourgeoisie française aux manies insupportables. Et la splendeur et les ridicules du désordre amoureux sont très présents dans ce livre. Le grand Gustave y retrouverait ses petits. Pour illustrer ce livre, je vais vous parler du chapitre qui traite des cinq raisons de désenchantement de Gemma Bovary. Alors la première raison, c'est la maison. La maison donc qu'ils ont achetée en Normandie. Après quelques travaux, voilà ce que dit Gemma, après quelques travaux et avoir dépensé beaucoup d'argent pour l'ameublement, Gemma en pense qu'au final, le résultat ressemblait à une foutue boutique de brocanteurs, cucu, ringarde, bidon, que de la merde. La deuxième raison de désenchantement, ce sont les voisins british, friqués et leur marmaille géniarde. Il y avait beaucoup de choses que Gemma trouvait répugnantes chez les rankings. Tout cela rendait Gemma malade. Pire, cela soulignait la précarité de sa propre situation financière, faisait paraître encore plus petit, plus sombre et plus sordide son cottage de rêve. Sous cette lumière, sa vie simple avec Charlie apparaissait comme une forme d'autopunition, sans joie, sans amis, recluse, ennuyeuse. La troisième raison est la peur. Passé les premières semaines d'extase, la maison et le paysage environnant rendent Gemma très nerveuse. Insupportable la nuit. Quand Charlie n'est pas là, je dors avec la lumière, c'est lamentable. Mais je n'y peux rien. Je sais ce que sont ces bruits. Le chien, les souris, les vers de bois, le toit qui fuit. Mais ça me rend quand même dingue, cet horrible grincement. Un bruit comme quelqu'un avec un long manteau de cuir qui monte sournoisement. La quatrième raison de ce désenchantement, ce sont les pharmacies. C'est bizarre, les Français ont des pharmacies, comme les Anglais, des confiseries, il y en a partout. Même dans un trou perdu comme Belleville, c'est là donc où se trouve leur résidence. Et partout, on se fait bombarder de pubs pour le corps. En ville, ça paraît normal, mais pas ici. Ça me fout en l'air. Je suis pas venu en Normandie pour penser aux crèmes pour les fesses. Et la dernière raison de son désenchantement, c'est Charlie, son mari. Il a commencé à l'exaspérer. Tout le remplissait d'enthousiasme. Il était si content de Belleville, si indéfectiblement optimiste au sujet de la maison et de ses défauts, craquement en fuite, odeur de décharge. Et tandis que Gemma s'impatientait et s'ennuyait chaque jour davantage, Charlie incarnait de plus en plus l'image du bonheur rustique à la française. Ce bonheur qu'elle lui avait fait miroiter quelques mois auparavant à Londres. Et plus il était heureux, plus elle le trouvait emmerdant. Son béret, écrit-elle, le ressemblait à un vrai con. Un de ces types des pubs Stella Artois. Il pue la gauloise, mange en maillot de corps, verse du calva dans son café. Son sourire est bloqué en position endormie. Elle trouve qu'il se transforme en légume, genre d'avé. Elle a de moins en moins de choses à lui dire. Voilà, donc c'est un extrait là que je viens de vous lire qui se situe au milieu du récit, de ce très beau livre qui est très bien dessiné et que je vous recommande fortement pour passer un bon moment. Donc je rappelle le titre, Gemma Bovary de Posy Simmons. Simmons, S-I-M-O-N-D-S, chez De Noël.
Donc pour terminer avec quelque chose de plus léger, je vais vous présenter 36 chandelles de Marie-Sabine Roger. Marie-Sabine Roger, c'est l'auteur, entre autres, de La tête en friche, qui a fait un film, enfin c'est pas elle qui a fait le film, mais le roman était très très bien et le film aussi. Donc ce livre est plein de fantaisie et d'humour. Le héros, je vais vous lire d'abord le début du texte. Le héros est persuadé de mourir à 36 ans le jour de son anniversaire. On a beau essayer de prévoir l'imprévisible, l'intempestif survient au plus mauvais moment. Je m'apprêtais à mourir. Décéder fait partie de ces moments intimes qui supportent assez mal les témoins importuns. Je m'étais préparé de longue date en vue de ce dernier instant. J'avais résilié mon bail pour la fin du mois, le ménage était fait, poubelle sortie, placard et réfrigérateur vidés, vitres et sol à peu près impeccables. Je venais de couper le gaz et l'électricité après mon café du matin. Mes papiers étaient tous en ordre, je pouvais m'en aller serein. Pour fêter l'événement, je m'étais même acheté un costume de deuil avec chemise et chaussures assorties. Je n'avais pas lésiné sur le sombre et le noir. Ah, pour les chaussettes, j'avais eu plus de mal à me déterminer. Imprimées de motifs, discrètement rayées, finalement j'avais opté pour une fantaisie. Des oursons rouges et jaunes, clonés façon Andy Warhol, sur fond de neiges éternelles. Mourir, d'accord, mais du bon pied. J'adorais ces chaussettes. Morty est donc persuadé qu'il va mourir le jour de son 36e anniversaire à 11h, comme avant lui, son père, son grand-père, son arrière-grand-père et même son arrière-arrière-grand-père. Mais il ne meurt pas. Ah ! Et un jour, il rencontre une fille qui pleure sur un banc sous la pluie. Après un bref échange, intrigué, il la suit. J'ai suivi Jasmine de loin. Il a appris qu'elle s'appelait Jasmine. À peine passé le coin de la rue, elle avait repris son trot et j'ai failli me laisser distancer. Enfin, au moment où j'allais abandonner ma filature pour cause du ras-le-bol et d'heures qui tournaient, pas que ça à faire non plus, elle est entrée dans un Starbucks. Je suis entrée à sa suite. Elle était en train de commander un cheesecake. Elle a souri en me voyant arriver. Elle m'a dit... « Tu as vu ?»« Vu quoi ?» j'ai dit, agressif. « C'est quoi cette comédie ?» Jasmine a levé un sourcil. « Quelle comédie ? C'est pas de la comédie. Quand les gens ne vont pas bien, je le sens. Je les aide, je leur donne envie de me rendre service. » Elle a pris son plateau, elle est allée s'asseoir à une table au fond. Je l'ai suivie en répétant après elle, perplexe. « Tu les aides ?» en leur donnant envie de te rendre service. Oui, voilà, après, ils se sentent mieux. Elle a pris une cuillerée de cheesecake, elle l'a mangée religieusement, les yeux mi-clos de bonheur comme un chat qui ronronne. Elle a dit, « Quand tu es resté avec moi sous la pluie tout à l'heure, t'as pas eu l'impression d'être quelqu'un de bien ?» Je ne lui aurais pas fait le plaisir de le lui confirmer, mais elle n'avait pas tort. Je m'étais trouvée serviable, différent du serveur, du patron, nettement meilleur qu'eux, pour tout dire. « T'es dans une secte ou quoi ?» j'ai dit, méfiant. Elle a éclaté de rire. Jasmine m'a raconté en deux mots d'où lui venait cette manie d'aider les gens sans le leur dire. Un matin, à l'arrêt du bus, quand elle était ado, un jeune garçon assis à côté d'elle avait fait une crise d'épilepsie. À l'entendre, elle n'allait pas très fort à cette époque-là. Elle avait dit ça d'un ton léger, sans insister. Et elle avait vu une émission sur les gestes d'urgence deux jours avant. Sans s'affoler, elle avait fait allonger le gamin sur le côté, elle avait posé sa tête sur son blouson roulé en guise d'oreiller et elle avait attendu les secours avec lui. Eh bien, c'était pas grand-chose, mais je me suis sentie bien tout le reste de la journée. Est-ce que le simple fait de se préoccuper des autres pouvait suffire à remonter le moral? La théorie était intéressante. Il restait à la vérifier. L'idée avait fait son chemin et quelques jours plus tard, elle s'était assise sur un banc et s'était mise à pleurer. Comme ça, juste pour voir. Et alors? Alors, ça a marché tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qui a marché? Un type est venu me demander ce qui n'allait pas. Elle a ajouté que ça l'avait étonnée, parce qu'elle était vraiment certaine que les gens vivaient dans leur bulle en se moquant pas mal de ce qui pouvait arriver aux autres. Mais c'est pas vrai, en fait. Les gens ne sont pas indifférents. Pas tous. Quand je me mets à pleurer, il y a toujours quelqu'un qui me voit et qui vient. Donc voilà, comment ça va finir, je ne vous le dirai pas, mais c'est un livre extrêmement plein d'humour et très agréable à lire. 36 chandelles de Marie-Sabine Roger.
Donc nous vous avons présenté aujourd'hui Il y a de Guillaume Apollinaire, illustré par Corvézier, Voyage au bout de la nuit de Céline, Clavel soldat de Léon Wörth, Voyageur malgré lui de Mine Tranui, Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre de 14-18 de Thierry Bourcy, Clostria de Régis Zoffray, L'enfant de l'étranger d'Alan Hollinghurst, Gemma Bovary de Posy Simmons et 36 chandelles de Marie-Sabine Roger. Très rapidement, parce que l'émission est bientôt terminée, je vous donne les prochains rendez-vous. Le 2 décembre, mardi 2 décembre, à 18h30, aura lieu un comité album organisé par Éclat de Lire, comme tous les premiers mardis du mois, de chaque mois. Et ça sera un comité un peu spécial, puisque Jérémy Fischer, qui est l'illustrateur en résidence, sera présent et nous parlera de ses livres préférés. Dans le même état d'esprit, notre comité de lecture du 16 décembre, on aura le plaisir pendant ce comité de lecture de recevoir Sylvain Prudhomme, qui nous parlera de ses auteurs contemporains qu'il aime. En parlant de Sylvain Prudhomme, il organisera des ateliers d'écriture au mois d'avril. 3 ateliers d'écriture de 9h à 13h, les mardis 7, jeudi 9 et jeudi 16 avril. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Le comité de lecture de février aura pour thème Patrick Modiano, qui a eu le prix Nobel de littérature 2014. Et pour le comité du mois de mars, qui se déroulera pendant le Printemps des Poètes, nous parlerons de l'insurrection, qui sera le thème du Printemps des Poètes. Et pour finir, le 21 mars, toujours dans le cadre du Printemps des Poètes, nous organiserons une déambulation poétique avec les élèves du conservatoire et leur professeur Valérie Farou, avec la classe de clarinette. Voilà. Donc, nous vous remercions et on vous dit au mois prochain. Au revoir.
Au revoir, merci.
Merci.